Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Peut-on refuser le succès et l'argent sans nous en rendre compte, et donc repousser inconsciemment la vie que nous souhaitons pourtant tant créer? Allez, c'est parti! Comment créer notre propre vie et ne pas subir celle que l'on nous impose? Telle est ma quête, et moi je décide de le faire en créant du contenu. Chaque semaine, je partage avec vous des conseils, les résultats de mes expériences, et je parle en compte de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour, et moi j'ai décidé de le faire par du contenu. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dans cet épisode 652 qui est vraiment un sujet très important pour moi, parce que c'est une véritable prise de conscience, vraiment un frein énorme dans ma vie créative, dans ma vie entrepreneuriale, un frein qui a failli me faire abandonner, me faire tout lâcher il n'y a pas si longtemps que ça, et qui parfois revient. Vous savez, c'est un petit peu lancinant, c'est un petit peu un sujet lancinant qui revient dans ma vie. Et ce problème, c'est tout simplement la relation à l'argent, la réussite, au succès. La vision que j'ai de l'argent, de la réussite, du succès, et qui me montre que parfois on peut vouloir fortement quelque chose, mais avoir quand même mis en place un frein, des freins qui sont inconscients, qui nous empêchent d'y arriver. Et ça peut être situé justement sur des sujets auxquels nous ne pensons pas au début. Moi, au début, je ne pensais pas que j'avais un frein aussi important sur cette relation à l'argent, sur la réussite, le succès. Je pensais que pour moi c'était des sujets qui, je dis pas neutres, mais en tout cas qui étaient beaucoup plus moins importants que ce qu'ils sont. Et je me suis rendu compte que la création de contenu, l'entrepreneuriat vont révéler ces comportements, vont révéler nos failles, nos freins, nos limites. Ces limites qu'on a pu placer totalement, je le répète, inconsciemment, qui se construisent dans le temps et qui au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure qu'on développe notre vie, grossissent et qui, à ce moment-là, peuvent devenir handicapants. Et entreprendre ne devient pas alors seulement créer du contenu, mais aussi lever ses freins. Alors j'ai décidé de vous en parler, une fois par mois au moins, de ce mindset, de cette relation au succès et à l'argent. Et aujourd'hui, pour commencer sur ce sujet-là, je dois vous dire quelque chose, c'est que je suis un repousseur. Oui, je refuse l'argent, le succès, la facilité. C'est ça mon frein. En fait, c'est que je refuse, je le repousse. Et mon fonctionnement est de repousser quand ça se présente. Quand les choses qui touchent à la réussite, au succès, à l'argent, à la facilité, quand il y a un truc qui est facile à faire, je refuse, je repousse. Et c'est vraiment un élément qui est ancré en moi, mais qui est vraiment inconscient. Je n'en connais pas vraiment la source et je suis en train de travailler sur la source. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas trop trouver spécialement la source, c'est de trouver comment m'en débarrasser. J'ai eu du mal à repérer ce fonctionnement et en voir les conséquences. Et en fait, je suis capable de tout justifier. Mon cerveau a créé l'histoire, a créé les histoires pour justifier ce comportement et tous ces comportements. Je vais vous donner quelques exemples de repousseurs, de manières de repousser. Par exemple, ne pas créer de produits à vendre, ne pas lancer d'offres, ne pas faire de mail pour annoncer une offre, ou alors ne faire qu'un mail timide. Et si par exemple, je fais un mail de lancement d'un produit, et puis le lendemain, je fais pas de mail, et puis le surlendemain, j'en fais un petit léger en mettant juste un petit PS, et puis ensuite, je fais pas le mail de relance, et puis quand l'offre se termine, parce que j'ai quand même fini par mettre une offre, et je mets pas le mail de relance du dimanche pour dire attention, ça se termine dans quelques heures ou à la fin de la journée. Ou alors, je le fais tellement tardivement et tellement timidement que finalement, il n'y a pas grand monde qui ouvre le mail. C'est-à-dire que même la tournure n'est pas très vendeuse en elle-même. Ne pas parler de mes offres sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur mon compte Instagram, je parlais très peu de mes offres. Même, on peut dire que dans certains domaines, je n'ai créé aucun produit, aucune offre, donc je n'en parlais pas du tout. Et que si on regardait mon compte Instagram, on se rendait pas compte que j'avais mes formations en création de contenu, mes coaching en podcasting, même que ce podcast-là, on a l'impression qu'il n'existait pas. Il y a des gens qui me suivaient sur Instagram, qui connaissaient tout ce que je faisais sur la course à pied, qui connaissent toute la partie sur la course à pied, mais qui ne savaient pas, par exemple, que je faisais l'accompagnement, qui ne savaient pas que je faisais de l'accompagnement aussi en podcasting, qui ne savaient pas que je pouvais les aider sur d'autres sujets, hein, tout simplement, que de dire, bah voilà, je suis capable de courir, je fais ça, je fais ça. Non, en fait, je ne l'expliquais pas. Et ça, en fait, ne pas l'expliquer, bah, c'est repousser le fait que des gens puissent me demander quelque chose, puissent me demander de l'aide et puissent même acheter mes produits. Ne pas relancer quelqu'un qui m'a contacté aussi. Ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois. Des gens, par exemple, sur les réseaux sociaux qui m'envoient un message un jour. Et en fait, je mets tellement de temps à lui répondre qu'au moment où je lui réponds, bah, c'est trop tard. Ou alors même, il y a des personnes dans le passé à qui je ne répondais pas. Dans les mails, je le mettais avec une petite étoile en disant les choses à faire. Et puis en fait, je me rendais compte quelques semaines après que j'avais oublié de répondre. Voilà, tout simplement oublié de répondre. Et comme par hasard, ça tombe toujours sur les mails où c'est des gens qui me demandaient des produits, des offres, si je faisais telle ou telle chose, si je pouvais les aider, si je faisais du coaching. Pourquoi ? Bah, parce que comme j'avais pas de produits, j'avais pas d'offres, j'ai pas de choses auxquelles je pouvais répondre facilement, et puis j'hésitais, et puis il fallait que je réfléchisse à comment j'allais construire les choses. Et donc, au bout d'un moment, je ne répondais pas, je me disais, bah, il faut que je réfléchisse à ça, et donc je répondrai ensuite. Mais ça, c'était une forme de procrastination, une procrastination qui me permettait de repousser vraiment le fait que j'allais proposer quelque chose, qu'on puisse me dire oui ou me dire non. Et je pouvais dire, bah, j'ai peur qu'on me refuse mon offre, mais au moins je l'aurais proposé. Non, moi je repoussais carrément le fait de donner l'offre. Alors, on peut avoir la peur, hein, de dire oui, j'ai peur que je sois rejeté ou autre. Ça en parlera, ce sera une autre peur. Mais vraiment, vraiment, je le rentre dans cette peur de... Bah, que quelqu'un dise oui, en fait, que quelqu'un dise oui. Et je me dis, voilà, s'il dit oui, maintenant, il va falloir que j'assure, il va falloir que je lui donne ce qu'il a demandé. Et c'est même pas du syndrome de l'imposteur, en fait, parce que je sais, hein, si vous me demandez de vous accompagner sur lancer votre podcast, avec le nombre de podcasts que j'ai lancé, avec le nombre d'épisodes, je sais que je peux vous aider. Mais je me donnais pas l'autorisation parce que, finalement, j'avais peur de ce qui allait se passer derrière, en fait. Tout simplement, ce qui allait se passer derrière. Autre exemple, ne pas donner le lien vers mon produit à quelqu'un qui cherche des conseils et qui même m'envoie un message privé. Ça m'est arrivé il y a encore quelques jours. Quelqu'un qui, franchement, serait rentré dans le... J'ai un programme pour la course à pied et vraiment, très clairement, je pense qu'il pouvait être un acheteur potentiel. En tout cas, ça pouvait l'intéresser, la méthodologie pouvait l'intéresser. Eh ben, je lui ai donné 2-3 conseils, mais je ne lui ai pas donné le lien vers le produit qu'il pouvait acheter. Non, je lui ai pas donné le lien. Finalement, je laisse se débrouiller mes conseils, alors que j'ai toute la méthodologie qui va derrière et qui aurait pu l'intéresser parce que c'était pile dans ce qu'il recherchait. Ne pas démarcher pour vendre de la pub. Ça, je l'ai vécu pendant des années, et notamment, je l'ai vécu sur l'époque Cyberbounia, qui était mon site d'actualité sur Clermont, qui était l'un des plus gros sites sur Clermont d'actualité, qui était l'un des plus gros sites locaux de France au niveau de l'audience. Pourtant, j'avais des revenus publicitaires qui étaient extrêmement faibles, mais vraiment très faibles. Et j'ai même une anecdote qui va beaucoup plus loin sur l'histoire de Cyberbounia. C'est qu'à une époque, le groupe de presse local a voulu acheter Cyberbounia. Alors, ils n'ont pas dit directement, mais ils étaient intéressés. Et moi, ce jour-là, j'avais trouvé, en fait, j'avais eu des contacts aussi avec un journal type Libération pour discuter un petit peu de comment j'évoluais et autres. Et j'ai dit oui, je suis en train de discuter avec eux de telle ou telle chose. Et en fait, j'avais été dans une situation parce que j'avais dit, en faisant un peu le mariole, en faisant je sais pas quoi. En fait, j'avais même pas pris en compte qu'ils pouvaient vouloir racheter le site. Avec le développer le site, peut-être mettre de l'argent, peut-être à l'époque m'employer et aller savoir, peut-être ma vie aurait été totalement différente. Mais en fait, j'avais repoussé même l'éventualité que je puisse réussir par le biais de ce site-là. Et donc, j'avais refusé de cette manière-là, en fait, la vente. Ils me l'ont dit plus tard, hein, qu'ils étaient intéressés par l'acheter. Et puis, après, quand il a fallu aller chercher la pub pour développer le site, eh ben, en fait, je n'osais jamais proposer ma pub. Je n'osais jamais dire j'ai des bannières. Je n'osais jamais dire que j'ai telle ou telle offre. Voilà, je disais, on peut faire des concours, on peut faire des partenariats. Mais je ne vendais jamais rien. Je n'osais jamais vendre. Je n'osais jamais démarcher. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Le site est mort parce que je n'avais plus de budget. J'ai plus moyen finalement de financer et je devais faire autre chose. Je n'ai même plus le temps de développer les articles et j'ai fini par me lasser. Et au bout de 17 ans, le site est mort. Et puis, dernier exemple aussi, ne pas donner le prix. Avoir des, par exemple, des discussions sur telle ou telle chose et puis ne jamais oser donner le prix. Penser qu'il peut toujours être trop élevé, refusé ou alors donner un prix très bas. Voilà, donner un prix très bas, un prix un petit peu de confiance. Alors, ça, c'est pas une stratégie qui est mauvaise en soi, hein, parce que donner un prix de confiance, c'est toujours intéressant parce que justement, ça donne confiance. Mais ne pas donner le prix, bon, bah là, on repousse le fait qu'on puisse nous donner de l'argent, parce que c'est lié à tout cet ensemble-là, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui fait qu'on peut transformer l'audience qui est, on va dire, j'allais dire gratuite, mais en tout cas qui vient pour les conseils gratuits, en une audience qui va payer. Eh ben, je l'ai repoussé pendant très longtemps. Et on pourrait dire, hein, je peux avoir d'autres plein d'exemples. Bah, j'ai mis plus d'un an à lancer ma première formation liée à mon podcast Votre Coach Web. J'ai mis encore je ne sais pas combien de mois à créer la deuxième. Je n'osais pas mettre certains arguments de vente. Je ne faisais pas des offres avec des prix limites. Je n'osais pas faire des réductions sur les prix. Je n'osais pas lancer plusieurs produits pour tester lequel allait mieux marcher. Bref, tout ce qui m'amenait à la réussite et à l'argent, je le repoussais. Je ne le faisais pas, en fait, je ne le faisais pas. Et donc, j'ai cherché pourquoi. Pourquoi ? Et la prise de conscience, en fait, c'est que depuis quelques mois, j'ai une sorte de traversée du désert, en fait, ce que j'appelle plutôt les marées de l'angoisse. C'est en fait, les marées de l'angoisse, c'est une zone que j'ai identifiée dans la course à pied, mais que j'ai identifiée dans tous les projets. C'est une zone dans laquelle on passe pour chaque projet, celle où l'on croise tellement de difficultés qu'on se demande si on va arriver à s'en sortir, où ça paraît tellement lourd, où il y a tellement de choses qui sont sur nos épaules, on a l'impression que tout s'abat sur nous, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à aller vers là où on veut, qu'on se demande si finalement on va pas se faire engloutir par les marées. C'est comme si on voyait, vous voyez, traverser des marées, qu'il y a des petites, quand j'ai fait une image d'illustration, il y avait des petites têtes de mort sur le côté, des petits os, les corps de ceux qui ont voulu passer sur ces marées de l'angoisse, qui ont échoué, et qui sont d'autres entrepreneurs, d'autres créateurs de contenu. Et en fait, je commençais à percevoir que le mien, là, mon petit squelette, allait finir là aussi, mon corps allait se faire bouffer par les poissons, par les acides des marées de l'angoisse. Et en fait, quand on arrive à en sortir, on fait de belles choses, des choses qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire que au départ, tout projet, c'est toujours, on dit, j'ai toujours une grande idée, j'ai une belle idée, je vais faire ça, on se lance. Quand on commence à se lancer, on se rend compte que ça devient compliqué, qu'il y a des choses qui sont compliquées. C'est là, à contraire, ces marées de l'angoisse. Et en fait, les marées de l'angoisse, quand on en sort, quand on arrive à en sortir, on se rend compte à quel point on peut faire des belles choses et même des choses qu'on croyait impossibles. Je l'ai connu dans la course à pied, par exemple, sur mon marathon. Mais il y a un moment donné, je me suis demandé si j'arriverais à courir mon marathon. Je m'étais blessé 15 jours avant et je me suis demandé si j'arriverais à le courir, à faire un jour un marathon. Donc, j'ai dû relancer, refaire une préparation, changer plein de choses et j'ai réussi. Et dans l'entrepreneuriat, la situation était pas simple, vraiment, ou plutôt simple, disons pas simple et simple, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui voit de l'extérieur, la situation elle est très simple, c'est-à-dire que tout ce que je viens de vous expliquer sur ce que je repoussais, il est très simple, c'est-à-dire que n'importe quel coach peut venir et me dire « mais pourquoi tu fais pas ça ? Pourquoi tu fais pas ça ? Pourquoi tu ne fais pas ça ?» Et donc, pour moi, c'était pas simple d'arriver à le résoudre parce que je ne l'avais pas compris. Et ce qui était simple aussi, c'est que le résultat, tout se passe pas comme prévu, et donc le résultat, il est simple à comprendre, pas assez de rentrée d'argent, pas assez de clients, des difficultés pour boucler le budget personnel, le budget de la maison, des projets que tu ne peux pas monter, des choses qu'on peut pas faire en famille, des temps que je ne peux pas passer en famille, des choses, par exemple, je voulais acheter un vélo, je pouvais pas acheter un vélo, changer un peu un bout de matériel, je peux pas le faire, l'ordinateur qui commence à tomber un petit peu, qui a un logiciel, par exemple, à mettre à jour, que je pourrais pas faire. Plein de choses qui venaient même à toucher le problème même de les outils que j'avais pour créer. Hein, à un moment donné, je n'avais plus les moyens de... Par exemple, certains outils, je me disais, tiens, celui-là, il me permettrait de gagner du temps. Oui, mais j'ai pas le moyen d'investir dedans. Et donc, plusieurs fois, je me suis dit, écoute, à quoi ça sert de faire tout ça? Je vais abandonner parce que il y a personne qui achète mes produits. Il y a personne qui fait rien. Et en fait, c'était l'idée que j'avais là-dedans, c'était de dire, oui, mais je me donnais des excuses en disant, mais pourtant... J'ai quand même lancé quelques produits, regarde, t'as lancé des produits, t'as fait quelques offres, mais à chaque fois, ça n'a pas marché. Et pourquoi, en fait, ça marchait pas? Parce que je repoussais quelque part le fait en me disant, je les faisais pas si bien que ça, je les faisais pas, j'ai des offres timides, Je faisais pas les relances. Là où j'aurais pu faire des offres en me disant, bah tiens, j'ai pas de produit à vendre, mais je peux faire une offre sur mon catalogue pour quand même gagner un petit peu d'argent. Je le faisais pas. Je disais, bah tiens, je dois faire autre chose avant. J'avais toujours une autre priorité, en fait. Toujours une autre priorité. C'était sur une liste dans un coin de ma tête, mais je ne faisais pas. Et plusieurs fois, je me suis dit que j'allais abandonner et que j'allais redevenir salarié. Je voyais le moment où j'allais dire, bah maintenant, je vais redevenir salarié. J'ai même regardé les offres d'emploi. J'ai même regardé les offres d'emploi en me disant, bah tiens, je vais aller cueillir des pommes, je vais faire manutentionnaire, je vais faire un métier en fait qui fera pas appel à mon cerveau, qui va me sortir de ces histoires de création, de marketing, de vente, qui va me permettre de moins réfléchir, qui va m'éviter d'être dans trop de réflexion, parce que j'avais envie de me dire, bah finalement, je pourrais garder cette activité de création de contenu, mais garder un petit peu de fraîcheur de cerveau. Donc, plutôt que d'aller faire de la communication, du marketing pour un patron, eh ben, je vais plutôt aller utiliser mon corps pour soulever des charges, faire des ménageurs, pourquoi pas, cueillir des pommes, des fruits, des légumes ou je ne sais quoi. Et puis, le temps de cerveau qui me restera, ben, finalement, j'utiliserai pour encore créer un petit peu dans mon coin. Voilà, mais que finalement, ça reste une activité secondaire. Donc, je refusais le fait de pouvoir devenir professionnel de la création de contenu sur le podcast. Sur ce que je faisais autour de la création de contenu, de Kilomètre 42, de mes différents podcasts et même de ce podcast de Crée ta vie, hein, vraiment de tout ce que je faisais autour, je refusais le fait de pouvoir réussir dans ce domaine-là. Et pourtant, ce qui était le plus fou dans cette histoire, c'est que les voyants et de nombreux voyants étaient au vert et sont au vert. L'audience en hausse, la communauté du Hamster Zoning Club par exemple qui se développe, le nombre de messages que je reçois, des messages de plus en plus nombreux mais aussi de plus en plus sympas sur l'aide que j'apporte, sur les conseils que je donne, sur l'inspiration que je donne, sur des gens qui finalement écoutent ce que je fais et ont envie de faire la même chose. Des gens qui ont envie de me donner un coup de main, des gens qui ont envie de participer naturellement à mes podcasts, qui ont envie de se faire inviter. Et puis même le dernier voyant là qui s'est allumé, c'est que ce podcast que vous écoutez là tout de suite a été recommandé sur la page d'accueil de Apple Podcast. On m'a même dit qu'il était recommandé sur Amazon. Donc ça veut dire que il y a des personnes qui se chargent de la page d'accueil d'Apple Podcast qui ont choisi de mettre ce podcast Crée ta vie sur la page d'accueil en recommandation. Donc à ce moment-là quand même, ça veut dire que bah il y a du potentiel. Donc les voyants sont au vert. Mais alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh ben inconsciemment, je repousse ce qui permet d'améliorer la situation que je viens de vous décrire. En fait, je repoussais tout ce qui permettait de l'améliorer. Et en fait, j'ai trouvé même probablement un certain confort. Je reste dans ma zone de connu et ma zone de connu n'était pas dans la création même de produits, parce que créer une formation, je sais faire. Créer un programme de coaching, je sais faire. Accompagner des gens, je sais faire. Former, je sais faire. Non, je ne faisais pas les actions permettant de convertir les réussites créatives, permettant de convertir mes compétences en création de produits, même en marketing, même en copywriting. Par exemple, je disais, je connais pas le copywriting. Mais en fait, j'ai lu je ne sais pas combien de bouquins sur le copywriting, de faire des pages de vente, j'en ai fait je ne sais pas combien, et j'ai combien de personnes qui m'ont dit « Ah bah oui, le copywriting de cette page-là, la structure, comment c'est fait, comment c'est amené, c'est super bien fait. » Donc, il y a un moment donné, quand je faisais l'effort de faire les choses, bah je sais les faire, c'est pas le problème. C'est juste qu'en fait, je repoussais. Pourquoi je repoussais ça? Est-ce que c'était une question d'ego? Je ne crois pas. Est-ce que c'était la peur que ça ne marche pas? Bon, peut-être un petit peu, mais je ne crois pas. La peur de ne pas être apprécié? Oui, certainement. Et on a tous cette peur du rejet. La peur de passer pour un charlatan, un syndrome de l'imposteur? Oui, oui, c'est vrai. On l'a tous un petit peu, mais ça se combat. Des excuses, beaucoup d'excuses. En fait, j'avais beaucoup d'histoires créées par mon cerveau. Mon esprit a créé des excuses, des histoires que j'ai inventées pour justifier mes pensées profondes. Et en fait, je crois à ces histoires que j'ai inventées. Et j'y crois vraiment très fortement. Et c'est quoi ces histoires? Et c'est quoi la réalité? Et la réalité, c'est qu'en fait, j'aime l'argent. Je rêve d'avoir du succès. Toute ma vie, j'ai rêvé quand j'étais enfant, peut-être comme beaucoup de vous, d'entre vous, rêver d'avoir de l'argent, une belle maison, peut-être une belle voiture, rêver de pouvoir voyager, rêver d'avoir du succès, peut-être même d'être connu, parce que c'était un profond sentiment de transparence que j'ai dans ma vie. qui est vraiment fort. Et donc, il y a une époque, je rêvais d'être plus visible, d'être plus connu. Moi, dans mes années d'école, collège, lycée, j'étais pas la star du collège, la star du lycée, j'étais plutôt mis de côté, celui qu'on n'invite jamais, celui qui n'a pas beaucoup d'amis. Et à un moment, dans mes rêves, j'avais plutôt envie de faire partie de ceux qui étaient invités, de ceux qui avaient plus de succès, de ceux qui étaient un peu plus visibles. Et donc, la réalité de tout ça, c'est que j'ai envie d'avoir du succès, j'ai envie d'avoir de la réussite, j'ai envie d'avoir de l'argent. J'aime pouvoir acheter un produit, j'aimerais pouvoir acheter par exemple, le nouvel iPhone quand il sort, j'aimerais pouvoir changer mon ordinateur plus souvent, même si je trouve que mon ordinateur est très bon, il va très vite par rapport à ce que je fais, mais j'aimerais avoir cette possibilité. J'aimerais être à l'abri, avoir une sécurité, parce que j'ai un besoin de sécurité qui est important. Être à l'abri, ça veut dire quoi? Pouvoir payer les loyers sans avoir besoin de regarder son compte, enfin payer les emprunts, pas avoir besoin de regarder son compte régulièrement et avoir un filet de sécurité, savoir qu'on peut acheter, faire une dépense sans trop réfléchir dessus, en disant « bah tiens, je sais, il n'y a pas de problème, ça va passer ». Être à l'abri, c'est pouvoir dire « bah tiens, si le gaz, l'électricité augmente, ça va pas faire peser une charge qui est si importante que ça sur les revenus, sur ce qu'on fait dans la maison, ne plus avoir à me poser tant de questions ». Et puis, j'avais ainsi ce rêve de reconnaissance que, quand j'étais gamin, je rêvais d'être une star du sport, du foot. On se prend pour les artistes, pas trop pour les artistes, mais pour moi, vraiment pour les stars du sport et tout. Et en fait, je m'étais convaincu petit à petit que ce n'était pas pour moi. Parce que au fur et à mesure de ma vie, en grandissant, en vieillissant, je me suis convaincu, je me suis raconté plein d'histoires, et je me suis convaincu que ce n'était pas pour moi. Et que, en fait, j'ai même trouvé un confort à ne pas y être. C'est-à-dire que les histoires sont telles que je trouvais un confort, je trouvais des excuses pour ne pas y être. Je repoussais, et je repoussais quoi? Peut-être, et c'est là où le travail est important, peut-être que l'image que j'ai du succès, des riches, de ceux qui ont plus en tout cas, peut-être ça peut revenir de l'enfance, de l'adolescence, même pendant mes études, de certains comportements que je n'ai pas appréciés de personnes qui avaient plus d'argent que moi. Mes parents, c'était ouvriers, salariés, fonction publique, donc c'est pas... On était dans ce qu'on appellerait une classe moyenne tranquille pour payer le loyer, pour avoir une voiture, partir en vacances. Mais c'est vrai que je me rappelle d'avoir des souvenirs, par exemple à l'école, quand moi je pouvais être fier d'avoir un survêtement et d'avoir le seul survêtement de l'année que j'avais, que c'était pour mon anniversaire et que j'y tenais, peut-être avoir mes voisins qui avaient toujours plus de vêtements, qui avaient toujours plus de choses, qui avaient peut-être la dernière console de jeu quand moi je pouvais pas l'avoir, enfin toujours un petit peu ça. Et ça a provoqué, je sais aussi, de la jalousie, de la frustration, ça a provoqué beaucoup de choses. Et au lieu de que ça soit un moteur, finalement je me suis créé des histoires pour justifier que le truc, finalement, c'était pas pour moi, que j'appréciais pas leur comportement et que je voulais pas être comme eux, comme ceux qui finalement me brandissaient un petit peu ces trophées, mais c'était même pas des trophées, c'était de dire ces vêtements, ces consoles de jeux, ces choses que moi je ne pouvais pas avoir, que je n'avais pas, eux qui en avaient beaucoup plus souvent. C'est un petit peu comme si moi, finalement, j'avais dit je n'aime pas leur comportement avec ça, ça me frustre, je me sens peut-être rabaissé, je ne sais pas quel est le sentiment que j'avais exactement, mais en tout cas, dans ma tête, il s'est construit des histoires pour repousser, car je ne veux pas leur ressembler. Et là, c'est vraiment la prise de conscience, elle est vraiment là-dedans. Et donc, il faut passer à l'action. Quand on est dans ce sentiment-là, si vous ressentez ça, il faut passer à l'action. Depuis plusieurs mois, je travaille vraiment sur ma relation à l'argent et à la réussite. C'est vraiment un truc, je l'ai dit, pour ceux qui me soutiennent sur Patreon, j'en ai parlé, j'ai fait plusieurs podcasts privés sur Patreon pour parler de ça. C'est vraiment un point que je travaille, qui est vraiment très important. Et j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui fait du coaching et qui m'a dit, en fait, ce dont tu parles là, c'est important que tu en parles aussi parce que ça va aider beaucoup de gens. Et c'est un parcours, tout le parcours que tu fais, il m'a dit, là-dessus, il y a plein d'autres gens qui le vivent et tu peux aider d'autres gens avec ces histoires-là en le racontant. Et m'en suis rendu compte, c'est pour ça que je vais vous raconter ça aussi. Et je m'en suis rendu compte aussi parce que, en fait, il existe déjà des contenus sur le sujet. Et, par exemple, je me suis mis à lire certains livres sur l'argent, sur l'investissement, sur des parcours. Alors vous savez, bien sûr, il y a les fameux père riche, père pauvre, il y a les quatre cadrans. Du même auteur là, dont j'ai perdu le nom. J'ai écouté des podcasts sur l'investissement, sur la relation à l'argent. Alors il y a des comportements qui me semblent totalement aberrants. Il y a des choses d'ailleurs qui mes histoires personnelles me disent, mais pourquoi il fait ça? Mais ça me semble bizarre, ce comportement là ça me semble étrange. Je me dis, lui aussi il a un problème avec son argent et tout, et pourtant dans sa manière de faire et autres, bah il y a des choses que je peux envier aussi. Et puis je me suis lancé aussi dans des exercices, et dans les livres il y a toujours des exercices, j'ai aussi des cahiers d'exercices et puis aussi de l'accompagnement. Me suis accompagné ces derniers mois, depuis environ un an, j'investis beaucoup plus de temps sur des coachings, sur mastermind, sur aussi le fait d'avoir des personnes, notamment une personne, mais on va dire deux, avec qui j'ai pu discuter de ces sujets-là. Et notamment une personne, tous les mois, on travaille. Alors, c'est côté un peu psycho, sur justement, je fais plein de dessins, je fais plein de schémas sur ces relations finalement. C'est de quoi, qu'est-ce qui me fait peur vraiment? Ce que je viens de vous dire, en fait, c'est que pendant longtemps, je n'ai pas mis le doigt, en fait, sur ce qui me faisait, ce qui avait provoqué ça. Et au fur et à mesure que je reconstruis, que je repense à ces histoires-là, eh ben, il y a tout ça se remet en marche. Tout ça se reconstruit. Et quand on en discute, la question qui revient souvent, c'est me dire, mais finalement, de quoi tu as peur? Et pourquoi tu luttes? Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est-à-dire que je suis dans la lutte. Je comprends maintenant ces histoires. Je comprends pourquoi je les ai créées. Mais je comprends aussi que ce n'est pas l'argent qui va me transformer en sale con. Et que, en fait, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de succès, d'avoir de la réussite, d'avoir des gens qui m'envoient des messages en me disant « j'adore ce que tu fais, ne me transforme pas en sale con ». Enfin voilà, je peux le dire, je suis pas un connard parce que je gagne plus d'argent en vendant un produit. Si j'ai mis toute mon énergie dedans pour faire le meilleur produit, vraiment la meilleure chose, si quand je prends quelqu'un en coaching, je le prends en disant « cette personne-là, je peux vraiment l'aider, je peux vraiment l'accompagner, je peux vraiment lui donner des outils pour avancer ». Et l'argent que je lui demande est mérité par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que ça va lui permettre de faire, je me comporte pas en vendeur de, en bonimenteur, je me comporte pas en connard, je viens pas un sale con en lui prenant cet argent-là. C'est pas vrai, en fait. Et puis, si elle accepte de me donner, c'est que elle a confiance et qu'elle voit ce que je fais. Donc, je peux l'accepter. J'ai le droit, en fait. J'ai le droit de l'accepter. Et j'ai dit aussi l'autre jour d'être déloyal avec, bah, finalement, ce comportement que j'ai pu avoir dans mon éducation, qui me mettait aussi sur des rails. Dans l'intro, je parle de rails. Ces rails, c'était de dire, travaille à l'école, apprends des choses, fais des études, trouve un boulot, gagne de l'argent, achète-toi une maison, arrive jusqu'à la retraite, tout. Enfin voilà, vous savez ce comportement-là vraiment. Être salarié, vraiment être salarié. Le confort, la sécurité. Combien de fois j'ai entendu ça? Il y a pas longtemps encore, hein, dans ma famille, ma mère me dit, mais tu sais que ils embauchent dans l'éducation nationale. Tu sais que tu pourrais, ils cherchent des profs. Et d'ailleurs, c'est un comportement qui est fort parce qu'on pourrait dire, oui, c'est ma mère. Mais en fait, j'ai une discussion l'autre jour, une discussion dans la famille où j'ai entendu, en fait, qu'on disait, bah, un oncle a dit ça aussi à ma cousine. Elle dit ça à peu près à ma cousine quand elle décide de faire un truc, il lui a dit je vais te le dire, je lui ai dit au moins une fois, mais vraiment tu sais que c'est pas facile ce que tu choisis comme voie, tu devrais peut-être faire quelque chose où il y a plus de sécurité. Et les histoires familiales, quand je les reprends, les histoires familiales que j'ai entendues dans ma jeunesse, dans mon enfance, c'était de dire ben que j'ai un grand-père, bah ben, oui, lui il était artisan, il était créateur, créateur, il était serrurier, ferronnier, il créait aussi des tables, des objets, mais bon, il était perfectionniste, il n'arrivait pas à les vendre, alors au bout d'un moment, bah, il a dû abandonner ça pour aller chercher un boulot salarié, travailler dans les mines, et puis il a mis toute sa famille à l'abri en les mettant salariés aussi et tout. Et puis à un moment donné, quand les mines ont fermé, mon père est parti travailler dans une autre chez Michelin parce que c'était là où on était sûr d'avoir de l'emploi pendant des années, des années, des années. Vous voyez cette notion de sécurité. Et toutes ces histoires-là se sont construites sur ce que j'ai entendu, sur ces messages-là, que finalement, la sécurité, et on cherche tous la sécurité, c'est la pyramide de Maslow, c'était le salariat. Sécurité égale salariat. Et pour être salarié, pour être un bon salarié, il faut d'abord faire des études pour avoir un diplôme. Et moi, j'ai deux diplômes Bac plus 5, dont un, bon, c'était pour éviter de faire l'armée, mais là aussi, on peut dire que c'est presque un moment de... peut-être... une manière de dire je repousse peut-être certaines choses aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment dans la construction vraiment dans la construction. J'ai suivi le rail de la sécurité comme ça jusqu'au moment où je suis tombé sur un mur en fait. Je tombais sur un mur, et ce mur c'était il y a 10-11 ans. Mais depuis 10-11 ans, on peut dire aussi, même déjà avant, finalement, j'étais un repousseur. C'est-à-dire que dans la construction de ma carrière, j'ai envie de dire, je n'ai jamais cherché à gravir les échelons. Je voulais pas, je travaillais dans la fonction publique, je cherchais pas à être titularisé, à passer des concours pour être sûr d'avoir la sécurité, parce que j'avais pas trop envie non plus, au bout d'un moment, ça me tapait sur le système. Mais repousser aussi le fait de prendre du grade, par exemple. Je disais, non, mais je suis bien comme je fais. Ça me laisse aussi du temps pour faire telle ou telle chose, pour faire mes projets créatifs. Mais par exemple, j'écrivais des articles. À l'époque, j'étais blogueur. J'écrivais des articles pour des gens comme Monoprix, pour des marques qui me demandaient du contenu. Mais je ne poussais pas, en fait. Je n'allais pas plus loin. C'est-à-dire que si on me proposait, j'acceptais. Mais je ne faisais pas les démarches. Je repoussais le fait de pouvoir devenir, par exemple, blogueur à temps complet, alors que j'avais des contrats et que j'ai même participé un jour à un déjeuner dans lequel il y avait plusieurs blogueurs et blogueuses, et donc moi j'étais invité pour un projet qui était notamment un projet Monoprix, et tous ces blogueurs et blogueuses qui étaient à côté de moi, on faisait la même chose pour ce client là et tous sont devenus professionnels en fait, vraiment tous. Et il y en a même une que j'ai invité dans le podcast, qui est l'épisode avec Shalima, donc qui remonte à il y a assez longtemps, dans lequel on décrivait un petit peu ce qu'elle faisait, comment elle avait construit son blog, comment elle a construit ça, et elle était présente à ce déjeuner là et là où, vous voyez, il y a une espèce de carrefour, c'est-à-dire que elle a poussé d'aller chercher des clients, de faire des démarches pour aller chercher des clients, ben moi je l'ai pas fait. Et là aussi, j'ai repoussé le succès de mon blog. Mon blog, qui était à l'époque mon blog de mec, j'avais des partenariats, j'étais invité sur des conférences de presse, j'avais des marques qui voulaient faire des partenariats, qui fournissaient des produits, j'avais des régies pub, j'avais plein de choses. Mais je n'ai pas poussé plus loin, c'est-à-dire que je n'ai pas fait les démarches pour aller chercher le plus de succès, parce que là encore, j'ai repoussé. Et quand je repense à tout ça, je me dis, mais pendant des années, en fait, à chaque fois que les choses se présentaient, je repoussais. Et donc, là, le travail que je fais avec les livres, l'écoute de podcasts, les exercices, les accompagnements, c'est de m'aligner. C'est d'arrêter de lutter, c'est de m'aligner et d'accepter la réalité des choses. L'arrêter des choses, m'aligner, c'est déjà de dire, d'affirmer, oui, j'aime l'argent et j'en veux. J'aime le succès et j'en veux. J'aime la réussite et je veux avoir ma part de réussite à moi. Je veux avoir ma part de succès. Je veux ça. Je le veux. Parce que, vraiment, j'ai envie de ça. C'est vers ça que j'ai envie d'aller. C'est-à-dire que, plutôt que d'être toujours dans le repousser quelque chose, j'ai envie d'être tiré par quelque chose qui me fait progresser, qui m'aligne vers le haut. J'y agis pour créer ce qui me permet de le faire. C'est-à-dire que, au lieu de lutter en disant, d'essayer de lutter, mais c'est dans l'inconscient, cette lutte, en fait. C'est-à-dire que, d'un côté, je voulais de l'argent, je veux de l'argent, j'ai besoin d'avoir de l'argent et j'ai envie d'avoir de l'argent pour faire telle ou telle chose, pour créer des choses. Par exemple, j'avais un projet l'an dernier de dire, bah, tiens, j'imaginerais bien qu'on partirait en vacances en van. Et pour ça, il faut de l'argent, soit pour louer le van, soit pour acheter un van, soit pour, ou trouver un moyen d'avoir des partenaires pour le faire. Je pourrais dire plein de choses. Il y a plein de manières de le faire. Mais en fait, j'avais cette envie d'un côté. Et puis de l'autre côté, en fait, mon inconscient repoussait les choses pour le faire. Et donc, j'étais en lutte permanente, vraiment en lutte permanente. Et donc là, l'alignement, c'est de dire, ben oui, je veux ça. Je veux de l'argent, du succès, la réussite, je veux avoir plus de visibilité, et en fait je vais agir pour le faire, et je comprends que ça ne me transformera pas en sale con, et le simple fait de vous en parler, pour moi c'est un pas qui est énorme, vraiment qui est énorme, et vraiment c'est pour ça que je vous en parle aussi, c'est pour vous dire que il se peut que vous le viviez, et je pense que si vous avez déclenché l'écoute de cet épisode, c'est peut-être que vous le vivez, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vous dis, et vraiment, la pensée dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal à rentrer, qui peut vous paraître folle peut-être pour certains, c'est de dire que l'argent et la réussite de mes projets sont des moyens de vivre une vie plus alignée, plus riche de temps, de sens et de ce qui compte pour moi, sans me transformer en sale con, sans me transformer en patron avec plein de salariés. Et parce que moi, j'ai une image, j'ai eu beaucoup de chefs qui sont vraiment des sales connards, je peux le garantir, je peux le dire. Alors, ça m'oblige peut-être à mettre des bips sur cet audio, mais on va même pas le mettre, on va pas mettre des transformations. D'ailleurs, j'ai mis un gros mot dans cet épisode, mais Je suis désolé pour le gros mot. Le pire, c'est que j'en ai croisé un il y a quelques jours encore. Je peux constater à quel point nos chemins en 12 ans se sont séparés, mais à quel point ils se sont séparés aussi, pas seulement sur les carrières, mais en fait sur l'aspect, sur l'allure, sur la manière de parler, la manière de s'adresser, la manière d'être. On se ressemble plus du tout. On se ressemble plus du tout. Et en fait, ce que j'ai eu du mal à intégrer, c'est de dire que je peux rester qui je suis en ayant plus d'argent, en ayant la réussite que je rêve d'avoir, en ayant des projets qui réussissent, en ayant des gens qui m'envoient des messages. Je peux aussi finalement réussir avec l'image que j'ai moi de ma réussite à moi, c'est-à-dire d'être plutôt un entrepreneur mais plutôt solopreneur, que je ne suis pas obligé pour avoir plus d'argent, plus de réussite, plus de succès, d'avoir des salariés, d'avoir de la gestion de salariés à faire, et que c'est aussi ça que je repoussais. C'est aussi finalement ce qui me semblait aller avec avec cette réussite. Et vous savez, on a chacun nos excuses. Ceux qui vont rester, par exemple, dans l'auto-entrepreneuriat en se disant « l'auto-entrepreneuriat, c'est cool, mais si après je dois créer une société, ça va me faire plein de démarches, etc. » Et ben en fait, c'est aussi une forme de repousser la réussite, de repousser plus de réussite. Pourquoi ? Parce que l'auto-entrepreneuriat, il y a un plafond. Quand on passe le plafond, ça devient compliqué. Il y a plein de démarches qu'on fait. Et donc, en fait, on va s'auto-limiter sur ce plafond pour ne pas le passer. Et donc, en fait, là aussi, on repousse finalement une certaine forme de réussite, on repousse une certaine forme d'argent. Donc c'est pour ça que je dis que ce comportement là, il est vraiment ancré, il est vraiment très fort, parce qu'en fait on va trouver plein d'excuses. Moi je vous ai donné mes excuses à moi, j'ai trouvé mes excuses, j'ai cerné mes excuses, je vous ai donné quelques-unes des excuses, des histoires que je me racontais, mais il n'est pas impossible que vous aussi dans votre vie à vous, vous ayez d'autres excuses, d'autres histoires. Et la grande force des histoires en fait, c'est que même l'histoire, quand on se la raconte, elle n'est pas réelle, mais on croit qu'elle est réelle. Notre cerveau ne distingue pas la réalité de l'histoire. Et donc, à force de se raconter l'histoire, ça devient une conviction profonde. Et chaque chose qui se passe dans notre vie, on l'analyse en fonction de l'histoire qu'on est racontée, de la conviction. Et chaque chose qui se passe dans notre vie renforce la conviction. On voit dans l'actualité qu'un mec, par exemple, qu'un influenceur qui gagne beaucoup d'argent est un sale con. Vous savez, ceux qui sont partis à Dubaï et tout, on en parlait la semaine dernière, qui vendent de la merde sur Internet, qui arnaquent les gens, qui n'ont jamais les produits, qui achètent des fans et qui vendent des formations qui sont vides, etc. Et bah, on se dit, bah oui, effectivement, pour avoir du succès, pour avoir de la réussite, je dois faire comme lui. C'est l'histoire qu'on se raconte. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle histoire qui sort comme ça, et bah, finalement, ça renforce la conviction qu'il faut surtout pas réussir, parce que on risque de devenir comme eux. Alors qu'en fait, c'est totalement con. Mais je me rends compte à quel point j'étais con. Vraiment, je le dis avec une sincérité, mais vous allez me dire, mais là, il est dans l'autoflagellation. Non, je suis pas dans l'autoflagellation. Je suis dans la compréhension de mon cerveau, des actes que j'ai pu avoir pendant des années, qui m'amène à dire, j'ai repoussé à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'avoir plus d'argent, plus de réussite, plus de succès, d'avoir des promotions, me suis toujours débrouillé pour repousser les choses, vraiment pour les repousser. Et depuis je m'aligne en fait, je développe mes offres, j'ai lancé des nouveaux produits, j'ai lancé mes coachings, j'ai même vendu mes coachings alors que sur mon site, vous n'allez pas trouver mes coachings, mon coaching étincelle par exemple, vous n'allez pas le trouver, qui est pourtant, vous avez une idée sur, vous voulez lancer un podcast, vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, vous avez une idée de produit, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous voulez développer votre marque personnelle, donc vous avez l'étincelle de départ, et moi je vais vous aider à lancer ça. C'est un programme de 3 mois, il n'est pas sur mon site, pourtant je l'ai vendu, peut-être certains d'entre vous qui écoutent ce podcast, ben vous le savez parce que vous m'avez fait confiance là-dessus, et vous savez aussi que il y a des choses dont on parle dans les coachings, dans les accompagnements, et ben ça fait partie de ces sujets-là, mais j'ai décidé d'en parler beaucoup plus ouvertement parce que je sais à quel point ça peut limiter un grand nombre de créateurs, et parce que si moi ça m'a limité, ben ça en limite forcément d'autres, et si vous vous reconnaissez là-dedans, ben il faut dire que vous pouvez agir, hein. Déjà, vous pouvez agir. Je leur dis, j'ai lancé des produits, j'ai lancé des coachings, J'en parle régulièrement, j'ose donner un prix, je fais des appels quand quelqu'un me demande un appel découverte, vous savez, ces choses comme ça, sur mon site, vous trouvez les appels découvertes et j'accepte déjà, et déjà je réponds rapidement en disant bah tiens, voilà, il y a des créneaux, j'ai mis en place des créneaux, j'ai mis plus de créneaux disponibles qu'avant, j'ai augmenté le nombre de créneaux disponibles. Alors, il y a des semaines où je n'ai aucun créneau disponible, il y a des semaines où j'ai beaucoup de créneaux disponibles, ça dépend un petit peu de mes projets sportifs, mes projets créatifs, ça dépend aussi de l'organisation familiale. Donc il y a des moments aussi où j'ouvre plus des créneaux, il y a des moments où je les ferme. En ce moment, il y a moins de créneaux aussi parce que j'ai moins de place pour prendre des nouveaux clients en coaching. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un m'appelle maintenant, je vais forcément dire non, c'est terminé. Parce que ça aussi, il y aura un comportement repoussoir. Mais c'est de dire, on va regarder à quel moment ça peut se faire, comment on peut le faire, est-ce que j'ai de la place, pas de la place, est-ce que finalement c'est un coaching ou est-ce que c'est des formations, ou est-ce que finalement la formation, elle est un peu limite, mais est-ce qu'il faudrait en plus un ou deux séances de coaching en plus. Tout ça, en fait, je l'accepte maintenant. Je l'accepte. J'ai démarché aussi pour avoir de la pub sur les podcasts. J'ai démarché pour changer de régie, en tout cas sur un de mes podcasts qui est Sport Nutrition, pour faire évoluer la publicité. Là encore, pour pouvoir mieux le rentabiliser. Donc, d'avoir une démarche qui est plus active, plutôt que d'attendre que ça me tombe tout cru en disant « J'espère que quelqu'un un jour va écouter le podcast en disant « Tiens, j'aimerais bien acheter une pub à l'intérieur. » Maintenant, je suis dans une démarche plus active de dire non, c'est moi qui vais aller chercher, c'est moi qui vais aller chercher des clients là-dedans, c'est moi qui vais aller le faire. Tout ça, en fait, c'est l'inverse de repousser. Et on pourrait dire que l'inverse de repousser, finalement, c'est essayer d'avoir de l'attraction. Alors, je voudrais pas tomber dans la voie de l'attraction, mais quand même, c'est le constat que j'ai fait. C'est que depuis que j'ai changé cet état d'esprit, bizarrement, je vends plus de choses. J'ai plus de demandes, j'ai plus de clients, j'ai plus de coaching, j'ai plus de gens qui s'abonnent aussi, par exemple, au Hamster Zoning Club. Je propose des offres qui sont différentes. Là où avant, je me limitais, ou même par exemple, comportement repoussoir, le Patreon, pendant combien de temps je ne disais pas qu'il y avait un Patreon, vous pouvez me soutenir par Patreon. Bon, maintenant, le Patreon, j'en parle moins, mais aussi parce que finalement, par le Hamster Running Club, j'ai mis des offres qui sont plus importantes que sur Patreon. J'ose mettre en place des offres qui sont plus importantes, qui coûtent plus d'argent que sur Patreon, mais qui me permettent, moi, de mieux construire ma vie sportive, ma vie créative, ma vie telle que j'ai envie de la vivre, et surtout de pouvoir la financer, de pouvoir continuer à la vivre. Parce que la réalité de tout ça, c'est que si on veut continuer, si on veut développer et si on veut continuer, si je veux continuer à vivre ma vie créative, c'est-à-dire créer des podcasts, vous accompagner avec des coachings, avec des formations, gérer la communauté du Hamster Zoning Club, faire ce que je fais là tout de suite, qui est vraiment, j'ai fait plein de recherches sur l'ikigai pour me rendre compte que mon ikigai, en fait, je l'ai trouvé. C'est exactement ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que je devrais faire pour faire des choses qui correspondent à mon ikigai? La réponse est continuer à faire ce que je fais maintenant. C'est dingue quand même ce truc-là. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, même plusieurs, ça fait 2-3 ans, je cherche mon ikigai parce que j'étais en train de traverser mes fameux marées de l'angoisse. Je m'étais dit, c'est peut-être que j'ai pas mon ikigai, qu'il faut que je trouve mon ikigai, ma raison d'être, etc. Et en fait, quand je fais les exercices, je me trouve en fait à dire, mais je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Le truc qui m'amène dans ces recherches-là, c'est que comme j'ai repoussé le succès, comme j'ai repoussé l'argent, j'avais pas mis les conditions pour pouvoir continuer à le faire pour la suite de ma vie, pour la deuxième partie de ma vie, on pourrait dire, pour reprendre un peu cette expression-là, pour les années là qui me restent à vivre, j'ai pas mis en place les conditions pour pouvoir le faire, alors que je rêve de le faire, alors que j'ai envie de le faire, alors que c'est ma volonté la plus profonde, mais inconsciemment en moi, j'avais un frein à main. Et même mon corps me parlait, ma sciatique, mon mal de dos, j'en avais plein de dos, venait de cette marée, de traverser des marées de l'angoisse. Depuis que j'arrive aussi à m'ouvrir sur ces questions-là, ces sujets-là, mon mal de dos diminue, ma sciatique diminue, mes freins internes diminuent. J'accepte aussi et je m'aligne beaucoup plus avec ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'être. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est de vous dire qu'il est important, vraiment important de comprendre les uns et les autres notre fonctionnement profond. Et que ça, parfois, en fait, on ne se rend pas compte. Ça nous montre qu'on peut avoir des peurs, des limites, des actions qui viennent de notre perception du monde, telles que, en grandissant, qui viennent de nos parents, qui viennent de notre famille, qui viennent des amis, qui viennent des personnes qu'on croise à l'école, qui sont des élèves, des camarades de classe, mais qui sont aussi des enseignants, qui ont aussi un discours, le discours des enseignants, peut peut-être parfois nous amener dans l'analyse, dans ce que l'on fait, dans une direction ou dans une autre, indirectement, j'ai envie de dire, parce que il peut être que ce discours de réussis tes études, si tu arrives à faire des études, pourras faire telle ou telle chose, vient aussi, bah, c'est un peu le métier des profs, hein, de nous amener finalement à grandir, à progresser et à faire partie de ce rouage, hein, qui nous amène petit à petit vers le monde du travail. Faut se dire que la société a été construite aussi pour nous amener vers ce monde du travail et que c'est totalement logique qu'on y soit. Là, moi, dans ce podcast, nous tous, on essaye de s'en échapper pour la plupart. On essaye en tout cas de s'échapper d'un monde qui est prédéfini, qui est vraiment prédéfini, pour essayer de le vivre, ce monde du travail, à notre manière, de créer en tout cas la manière dont on veut le vivre. Et que si, ça veut pas dire qu'on veut s'échapper du salariat, mais ça veut dire que ben, peut-être qu'on peut vivre le salariat différemment, dans d'autres moyens de faire. Et puis, ça peut être aussi de me rajouter quelque chose à côté qui va nous remplir de joie, qui va nous remplir de bien-être, qui va nous permettre d'imaginer d'autres choses. Peut-être qu'il va être une sorte de side hustle pour gagner un peu d'argent à côté, pour justement financer des vacances, pour acheter des nouvelles choses en plus. Ou peut-être pour construire la suite d'un projet qui, peut-être pour l'instant, est un peu petit, mais qui, dans quelques années, quand il grossira, nous permettra aussi de devenir autre chose que salarié, d'être son propre patron, pourquoi pas. Et donc, ça, on se rend compte que quand on veut aller là-dedans, eh ben, en fait, on a notre perception du monde qui s'est construite et qui peut nous freiner. On parle beaucoup des plafonds de verre. Vraiment, on dit il y a des plafonds de verre, il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas passer. Et en fait, on se rend compte, et je me rends compte à quel point ils sont construits par tout ce qu'on a vécu, par notre entourage, par nous-mêmes, par notre vision du monde qu'on a construit. Et en fait, le monde tel qu'on le voit, on ne sait pas comment il existe. On ne sait pas comment il existe. En fait, le monde qui est autour de nous, on peut le décrire de plein de manières. Deux personnes qui vivent dans le même monde vont décrire le monde de différentes manières, parce qu'on va le décrire avec les histoires qu'on peut se raconter, avec les histoires telles qu'on les a créées dans notre tête, les histoires telles qu'on les a entendues, les histoires telles qu'on les a intégrées. Et c'est pas la réalité du monde, elle est très difficile à expliquer, parce qu'en fait, chacun de nous l'explique avec ses propres yeux, avec son propre vécu. Et un des gros boulots, et c'est pour ça que je vous parle vraiment dans cet épisode à cœur ouvert de ça, c'est de dire qu'en fait, c'est à vous de créer les conditions pour vivre dans le monde comme vous le voulez, et de dire qu'en fait, le monde que vous voulez, le décrire tel que vous le voulez, de dire que le monde tel que vous voulez, en fait, il ressemble à peut-être écrire un livre, écrire un livre, travailler peut-être que 4 jours par semaine, peut-être que 3 jours par semaine, avoir du temps pour faire du sport, avoir plus de temps pour passer du temps en famille, peut-être avoir du temps pour voyager, vous dire qu'en fait vous pouvez construire tout ça en voyageant si vous avez envie de voyager, en travaillant moins, c'est à vous de décrire le monde. C'est en vous de décrire le monde. Pourquoi ce podcast a changé de nom et pourquoi ce podcast s'appelle Crée ta vie, crée sa vie, c'est quoi? C'est justement de dire que le monde tel qu'il est autour de nous, il existe, il est en existence, mais nous, on a notre place à prendre en créant le monde, les conditions pour vivre le monde tel qu'on a envie de le vivre. C'est vraiment le grand message que je voulais vous passer, et c'est vous dire que ben, y a des choses qui nous en empêchent, mais qu'on doit s'autoriser, en fait. On a le droit de le faire. On peut s'autoriser à le faire. On n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit, en fait. Il n'y a personne qui doit nous autoriser de le faire. C'est pas comme, j'ai envie de dire, quand on était petit, bah, on demandait à nos parents si on pouvait faire telle ou telle chose. Quand on est à l'école, on demande si on peut sortir faire pipi, si on peut faire ça. Quand on est salarié, on demande si on peut partir en congé. On demande si on peut faire, si on a le droit de faire telle ou telle chose. Si ce qu'on a fait est bien. On est dans la recherche de la validation extérieure. On est dans la recherche de l'autorisation. Mais en fait, si vous avez envie de créer du contenu, si vous avez envie de devenir entrepreneur, si vous avez envie de gagner de l'argent en créant des vidéos sur YouTube ou en créant un podcast ou en écrivant un livre, vous avez le droit sans demander l'autorisation à personne. Juste, en fait, à vous. Juste à vous. Juste de vous demander l'autorisation à vous, de vous autoriser à le faire et de vous demander, en fait, qu'est-ce qui vous limite dedans. Et si vous ressentez ce sentiment de repousser, que vous repoussez les choses, que vous trouvez toujours des excuses pour pas le faire, demandez-vous pourquoi vous repoussez ça. Pourquoi votre procrastination provient probablement de ce comportement repousseur. Pourquoi il y a des choses que vous n'osez pas faire? Ça vient de ce comportement de repousser finalement. Et qu'est-ce que vous repoussez? Et une fois que vous aurez compris ça, et c'est aussi le but de cet épisode, c'est de vous expliquer à quel point c'est important, vous allez voir que vous allez sortir de la lutte. Et qu'en sortant de la lutte, vous redevenez aligné. Et que tout d'un coup, j'avais donné l'expression l'autre jour à quelqu'un qui l'a pas trop compris, mais en lui disant, c'est comme si je vibrais différemment. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est juste qu'en fait, je partage les choses d'une manière différente. Il y a un ressenti dans la manière d'en parler, de parler de certains sujets, où, par exemple, la gêne que je pouvais avoir en annonçant un prix disparaît parce que je sais pourquoi je demande un prix, pourquoi j'ai mis un prix, pourquoi j'ai besoin de l'argent qui correspond à ce prix-là pour construire ma vie, construire mon futur. Et c'est exactement ce que nous voulons. Et à partir de ce moment-là, et ben la gêne que j'avais à proposer le prix, plutôt que de le proposer du bout des lèvres en disant ben écoute ça fait tant, dire ben non écoute ça fait tant, voici pourquoi ça fait tant, voici comment ça est construit, tout d'un coup ça devient plus franc, ça devient plus net, et la personne en face elle a beaucoup plus confiance. Et c'est ça aussi qui change quand on arrête de repousser, c'est-à-dire que on devient plus attirant parce que on est plus net, on est plus taillé, j'ai envie de dire, pour reprendre un peu le terme, vous savez, comme un diamant, on est plus taillé, on est plus brillant, nos facettes sont plus désirables en fait aussi, parce que quelque part, on est plus clair, on est moins flou, et on est beaucoup plus net dans ce que l'on veut, dans ce que l'on veut apporter. Et ça, c'est vraiment le grand leçon que je tire des derniers mois qui sont passés, c'est que, et pour ça je vous en parle, c'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes en lutte entre une partie de vous qui repousse un peu tout ça, sortez de la lutte, cherchez un moyen pour sortir de la lutte. Et il y a plein de moyens pour sortir de la lutte, vraiment plein de moyens, vraiment beaucoup, je peux le dire, hein, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message, on peut en discuter, on peut échanger dessus, on peut voir, essayer de comprendre ce qui vous freine, pourquoi vous repoussez les choses et pourquoi ça vous empêche d'aller créer votre vie telle que vous avez envie de la créer. Et vous savez, moi j'ai envie que tout le monde devienne créateur de sa vie. Ça c'est ma conviction profonde, c'est que tout le monde peut créer sa vie. Et je le répète, vraiment, je le répète, quand j'ai croisé ces personnes-là, il y a deux jours, il y a trois jours, quand je les ai vues, je les ai vues en face de moi, il y a un moment donné, j'avais la haine pour ce qu'elles m'ont fait, ce qu'elles m'ont fait vivre, qui remontait. Mais en même temps, je les ai regardées et je dis, franchement, ce que j'ai construit, ce que j'ai créé ces dernières années, j'en suis super fier. Et je suis bien plus fier de ce que j'ai créé que de ce que je vois, de ce que eux sont devenus, de ce qu'ils font maintenant. Et je suis fier de ce que j'ai créé. Mais pour que ça continue, je dois accepter que j'ai envie et que j'ai besoin, mais surtout que j'ai envie de gagner de l'argent, d'avoir plus de succès, d'avoir plus de clients, plus de réussite, plus de visibilité, plus de tout ça. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, et ça m'a confirmé parce que je l'avais compris il y a quelques temps, mais eux, ils me le reconfirment en fait. Et c'est, vous savez, il y a toujours un truc, et je vais finir là-dessus, mais on dit toujours que il y a des gens qui repoussent, enfin qui le moteur, qu'est-ce qui nous fait bouger, soit parce qu'on est attiré par quelque chose, soit parce qu'on repousse quelque chose. Moi, ces dernières années, j'ai beaucoup entrepris pour repousser le salariat. Et au moment où j'étais dans les marais de l'angoisse, je me disais si je n'y arrive pas, je retombe dans le salariat. C'est ce qui me remettait une espèce de petit moteur. Et j'ai décidé aussi que ce qui devait me driver, plutôt que juste de retomber dans le salariat, cette peur de retomber dans le salariat, c'est surtout cette envie de construire et de continuer la vie telle que j'ai commencé à la créer et telle que j'ai l'équilibre actuel. Parce que c'est ça qui me plaît, ce que je fais maintenant, comment je vous aide, que ça soit dans la création de contenu, dans le podcasting, dans la marque personnelle, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'équilibre de vie, dans l'entrepreneuriat global, dans comment on construit tout ça, dans l'organisation du temps pour faire du sport, tout ça, tout ce que j'ai construit maintenant, qui est toutes mes facettes à moi, je suis fier de ce que je fais et j'adore ce que je fais maintenant et je veux que ça continue longtemps. Et à partir de ce moment-là, ça me permet en fait de dire très franchement, de regarder très franchement mes peurs, tout ce que j'ai repoussé, pourquoi je l'ai repoussé et pourquoi il est temps d'arrêter de repousser ça pour continuer à le vivre. C'est la conclusion de cet épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous sera utile, qui vous permettra d'avancer. Je vous ai livré toutes les sentiments qui m'habitent sur cette question, qui est vraiment une question qui est cruciale. Je me rends compte à quel point elle est cruciale. Et je m'en suis rendu compte pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte pour moi, mais je m'en rends compte aussi avec des personnes que je peux accompagner qui, quand on est dans la procrastination sur plein de sujets, la procrastination cache toujours, toujours, toujours une peur de quelque chose, le repousser quelque chose. Il y a toujours quelque chose, j'ai envie de dire qu'on refuse l'obstacle à un moment donné, on refuse de le passer, on refuse de l'affronter, ou on refuse de se dire que finalement, c'est cet obstacle-là qu'on doit passer, parce que c'est lui qui nous permet de faire ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qui va nous rendre heureux. Et vous savez, moi, c'est notre quête à tous, hein, c'est ça, c'est de créer une vie qui nous rend heureux, une vie riche. Et une vie riche, c'est, je disais à un moment, d'une vie riche, c'est pas avoir de l'argent. Mais en fait, si, une vie riche, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour ne plus y penser, pour se dire que ben, on n'est pas obligé de regarder son compte au bout de quelques jours dans le mois, qu'on n'est pas obligé d'attendre avec impatience qu'il y ait une nouvelle vente qui tombe ou quoi que ce soit. Et que ce temps, cette richesse qu'on en a, qu'on obtient, qui n'est pas forcément d'avoir des centaines de milliers d'euros, quoi que ce soit, mais que un niveau que l'on définit par soi-même, qui à partir du moment où on l'a aussi, nous permet d'avoir une vie riche de temps, une vie riche de rencontres, une vie riche de sport, de passe-temps, de pouvoir être sur nos passions, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire à côté. Et c'est vraiment la vie que je vous souhaite de créer, et c'est comme ça que je vais vous aider. Je vous laisse maintenant sur ces réflexions, je vous souhaite une très très belle journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.